Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés où nous avons décidé évidemment cette semaine de vous parler de l'Iran et des conséquences que les récentes actions des États-Unis et de l'Iran vont avoir sur vos portefeuilles et sur notre vie en général. Alors évidemment, pour ceux qui suivent l'Université de l'Épargne, vous savez que en général, notre travail d'investissement, c'est d'affiner peu à peu les scénarios qui se présentent à nous, et on le fait au travers de nos vidéos, au travers de graphiques et au travers de certaines de nos réunions. Et au fur et à mesure que des données économiques et financières tombent, sont présentées devant nous. On essaie de voir, au fur et à mesure aussi que des événements géopolitiques surviennent, on essaie de les intégrer aux analyses afin d'affiner les différents points de vue. Alors là, au fur et à mesure de l'année écoulée, vous savez qu'on s'est beaucoup intéressé à la croissance inflationniste qui pouvait venir en Chine, mais là, avec ce qui est en train de se passer dans le golfe Persique, on est en train de se poser la question, avec cette hausse significative du coût de l'énergie, de la possibilité d'arriver aujourd'hui dans ce qu'on appelle une vague à une récession inflationniste. Si vous avez suivi les quatre cadrans, ça nous mettrait dans le cadran en haut à gauche, et c'est à peu près un des cadrans les plus abominables pour la population, parce que c'est là où vous vous retrouvez comme après les années 70 avec une hausse immense de l'énergie et avec tout qui augmente, en gros l'alimentaire, sauf vos salaires parce que telle est la vie.
Donc elle ne peut pas vous
Et
augmenter.
parce que, comme vous le savez, on en a suffisamment discuté ici, l'économie, ça n'est jamais que de l'énergie transformée. Et donc, avec une énergie chère qui n'est pas chez nous, on peut, encore une fois, c'était le. Tu te souviens, on a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais enfin, quelquefois, les
Mais
idées, c'est pas ça qui fait tourner les
maintenant,
machines.
le problème, si tu veux, c'est qu'à l'époque, on était géré à peu près normalement, mais aujourd'hui, toutes les idées qu'on a, en particulier en Europe, sont les mauvaises. Alors on se dit, on risque de rentrer dans une crise avec vraiment les mauvaises idées, quoi. C'est là où est le problème. Alors, des pays comme la Chine, le Japon ont des excédents, des comptes courants importants et peuvent laisser monter leur monnaie pour absorber le choc pour leur consommation. L'énergie montera moins. Mais nous, on peut pas. Puis on a des déficits budgétaires monstrueux. Les taux d'intérêt risquent de monter. Donc, ça, quand l'économie s'affaiblit, en quelque sorte, ceux qui pètent en premier, c'est les maillons les plus faibles de la chaîne, tu vois.
Bien sûr.
Et on n'est pas les maillons les plus forts de la chaîne, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. C'était quoi? C'était en 1982-83. Ceux qui avaient sauté, c'était le maillon plus faible de la chaîne, c'était l'Amérique latine à l'époque. Eh ben, il va falloir savoir. Donc,
Alors,
on
donc,
veut
si on
pas
attends.
affoler les fous, on veut pas affoler les foules, mais enfin, il y a.
Voilà, c'est-à-dire que là, il faut reprendre. Donald Trump a déclaré lundi soir, donc hier soir pour nous, que la campagne de bombardement américain contre l'Iran pourrait durer 4 à 5 semaines. Ça veut dire
Ou
que,
plus,
ou
décide.
plus. C'est-à-dire, mais nous avons les moyens de prolonger bien au-delà, a-t-il été dit. Ça signifie que les entreprises, les investisseurs doivent réfléchir à l'impact sur les marchés énergétiques et le trafic de pétrole et de gaz naturel liquéfié
C'est
dans
ce
le
qu'on va
détroit
faire maintenant.
d'Ormuz. Si ça reste suspendu pendant 3 mois ou plus.
Voilà, il faut qu'on en parle parce que ça va avoir des effets, en attendant, sur les prix. Et on va essayer de montrer ça. Et donc, il faut bien que ceux qui nous écoutent se rendent compte que nous ne sommes pas là pour faire des prévisions, parce que, encore une fois, c'est pas possible. Nous sommes là pour nous adapter. Donc,
On ne dit pas que c'est bien ou mal.
on dit pas que c'est bien ou
Là,
mal.
on a l'idée n'est pas du tout d'avoir un avis sur les 10 bombardements et sur quel est le rôle d'Israël ou quel est le rôle. Non, c'est pas la question.
C'est pas
La
la
question, c'est
question,
voilà la main qui a été distribuée.
voilà,
On est au poker. On nous a donné
on
une.
a des deux de trèfle et des trois de carreau. Il va falloir
Qu'est-ce qu'on fait avec?
qu'est-ce qu'on fait avec? Et ensuite, qu'est-ce qu'on a recommandé depuis? Vous verrez que ça n'a pas si mal marché que ça. Bon, donc la première des choses que je voudrais vous dire, c'est vous dire que c'est un choc exogène.
S'il en est, hein.
S'il en est, c'est un choc exogène. Alors d'habitude, moi, dans ma carrière, je fais jamais attention au choc exogène, hein, parce que le choc exogène, c'est casse-pied et tout. Sauf si ça touche l'énergie. Parce qu'à ce moment-là, ça a un impact sur l'économie qui est réel et immédiate.
Bien sûr.
Donc là, les trucs politiques, les gens qui se mettent sur la gueule, qui se tuent comme des lapins dans des contrées ici ou là, c'est embêtant, mais ça a en général assez peu d'effet. Encore une fois, c'est pas un jugement, c'est une constatation. Aujourd'hui, on arrive dans un scénario où ça peut avoir de l'effet. Donc, il faut vraiment y réfléchir. Alors, je vais vous donner d'abord les chiffres, hein. On va commencer par le pétrole. Bon. Le pétrole, il y a à peu près 20% du pétrole mondial qui passe dans le détroit d'Ormuz. Bon. Ça fait à peu près allez, 20 millions de barils, hein, pour être simple, hein, qui passent par le détroit d'Hormuz. Bon. Si ce pétrole ne passe plus, on se retrouve un petit peu en culotte courte. Quoi. Bon. Et ce pétrole va surtout vers les pays d'Asie. C'est l'Asie qui se fournit beaucoup au Moyen-Orient. Donc, c'est un peu un inconvénient. Alors, on regarde un petit peu maintenant. Si on fait les comptes des stocks de pétrole qui existent dans le monde d'après l'Agence internationale de l'énergie ou d'après l'OPEP, qui sont dans le fond les deux gars qui surveillent ça de près, on a à peu près un an de stock dans le monde, tu vois, c'est-à-dire... donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on a de quoi tenir un petit moment, mais d'abord ils ne sont pas inégalement répartis, les stocks, il y en a qui en ont beaucoup comme la Chine oui. Et d'autres qui n'en ont pas beaucoup.
Donc, c'est marrant parce qu'on en a parlé à Noël des capacités de stocks, c'est-à-dire oui. Quand il y a eu l'attaque au Venezuela, oui. On a parlé justement de la Chine et de sa capacité de stock et la capacité de stock. On en a parlé pour l'alimentaire, on en a parlé justement pour l'énergie et les matières premières. Et la Chine était très en amont sur ces questions-là.
Ben, parce qu'ils ne sont pas fous. Donc ils ont beaucoup de stocks. Alors ça veut dire qu'on risque de se retrouver avec, pour certains pays qui n'ont que 3 mois, on risque de se retrouver avec une pénurie. Mettons que le monde puisse produire à peu près 104 millions de barils par jour aujourd'hui. Si on a 20 qui manquent, ça te fait tomber à 84. Et donc, mais avec un an de stock, ça permet de tenir. Donc sur le pétrole, tu te dis la situation est embêtante, mais pas désespérée. Tu vois, c'est voilà, c'est là ce qu'on peut dire sur le prix du pétrole. Mais par contre, pour le gaz, oui. C'est pas du tout la même chose.
Non, c'est pas.
Parce que, imaginez que vous soyez un pays qui soit vraiment désespéré, qui a besoin de pétrole, vous pouvez toujours envoyer un pétrolier, s'il le faire parler dans le faire passer le détroit d'Hormuz, et si quelqu'un vous le coule, c'est embêtant, enfin c'est très embêtant, mais en même temps c'est très inerte le truc, vous ferez une grosse marée noire, mais enfin, ce sera le dernier de votre souci. Mais le gaz, si vous essayez de faire passer un système gazier, un porteur de gaz, et que vous lui mettez une fusée dans le ventre, ça va exploser, ça va tuer tout le monde. Tu auras du mal à trouver des marins pour aller dessus, quoi. Mais tu n'auras personne pour t'assurer. Alors ça, c'est sûr et sûr. Et alors le gaz, là, on se retrouve avec une situation qui est beaucoup plus grave parce que le Qatar, qui est un des principaux exportateurs, a fermé sa production parce que si c'est liquide, si ça peut exploser quand c'est sur un bateau,
ça peut exploser sur un plan.
Si ça prend une fusée, c'est pareil. Donc là, on va avoir une pénurie assez importante.
Parce qu'ils arrêtent la production, oui,
voilà.
C'est certain.
Et encore une fois, la Chine a un an de stock.
Et nous ?
Et nous, on a 3 mois.
Et encore ?
Et on a 3 mois.
C'est ce qu'on nous dit.
C'est ce qu'on nous dit. Mais 3 mois, si vous êtes Taïwan, a 3 mois, il y a toute une série de pays qui ont 3 mois. Et donc, c'est très embêtant parce que c'est une forme d'énergie qui s'est beaucoup développée. Donc, il est probable que la hausse des prix du gaz sera beaucoup plus importante que la hausse des prix...
Mais oui, puisque l'offre et la demande.
Donc les gens vont regarder le WTI, le West Texas Intermediate, là qui est le prix du pétrole, ou le Brent, et vont dire, bon, le Brent ne monte pas tellement que ça, c'est pas la fin du monde. Sauf qu'en 1974, il n'y en avait que du Brent, il n'y avait que du pétrole, hein, personne ne se servait du gaz, ou très peu. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Donc le gaz est à la limite plus important que le pétrole, et c'est lui qui risque de beaucoup monter. Et l'Europe est dans une situation un petit peu délicate, où elle apporte une grosse partie de son gaz des États-Unis. Je sais pas quels sont les contrats qu'on a faits, mais si c'est des contrats au comptant, on n'a pas fini de payer, quoi. Ça va être une gamelle. On n'a que 3 mois de stock, tu vois. C'est, alors, en plus, l'hiver se termine, donc on a d'habitude, on termine avec un stock à 2-3 mois pour arriver dans l'été.
Oui,
là.
Mais de nos jours, on en a besoin aussi l'été, puisqu'on commence à avoir quand même en Europe aussi des besoins pour l'air conditionné.
Oui, mais ça, je crois que les gens
pas.
Vont avoir chaud cet été. Hein.
Ouais,
ouais. Ils vont pas pouvoir. Donc, ça nous amène dans une situation où il peut, conceptuellement, y avoir un choc énergétique. Et alors, à ce moment-là, il faut que je vous montre 2 ou 3 graphiques. Donc, on va aller sur le premier graphique qui s'appelle « Prix du pétrole West Texas en termes réels et Schiller PE ». Alors là, c'est tout simple, si vous voulez, c'est la relation entre les prix de l'énergie, le prix de l'énergie qui est en rouge sur vos graphiques, et le Schiller-Pi. Alors le Schiller-Pi, c'est un indice de la cherté du marché. C'est grosso modo combien de fois le marché paye les bénéfices de cette année. Tu vois, c'est la ligne noire que vous lisez, échelle de gauche. Hein. Pardon, échelle de droite. Hein. Et donc le rouge, quand vous voyez quand le rouge, c'est-à-dire le prix, il est inversé, je m'excuse, tout ça est assez compliqué, mais il est inversé sur l'échelle de gauche. Vous voyez qu'on passe de 25 à 50, à 100, à 200, à 400, ça c'est le prix du pétrole en termes réels. Hein.
Attends, reprends. Le noir.
Le rouge, c'est le prix du pétrole.
Le rouge, c'est le prix du pétrole, ok.
En termes réels, hein, et inversé. C'est-à-dire quand la ligne rouge baisse, ça veut dire que le prix du pétrole monte.
D'accord.
Tu vois, c'est... Et la ligne noire, c'est dans le fond la cherté que le marché met sur les actions. Donc tu vois que quand le pétrole baisse, les actions deviennent très chères. Quand le pétrole monte, les actions deviennent très bon marché, quoi. Donc vous voyez bien que si la ligne rouge se met à baisser, j'ai mis une espèce...
Donc à monter sur le graphique.
À monter dans la réalité, c'est-à-dire à baisser ici, quoi, tu vois. C'est-à-dire si on passe sur le pétrole de 150, où on est aujourd'hui 141,70 à gauche, là, si on passe à 200, ben, la ligne noire va se péter la gueule, c'est-à-dire que les actions vont se péter la gueule.
Oui, de toute façon, ça c'est... En règle générale, quand les États-Unis rentrent dans une guerre, les marchés des actions ne font pas très bien terme.
C'est parce que le prix de l'énergie monte, d'ailleurs.
Et le marché des obligations aussi
va se péter la gueule.
Ça, le premier casualty de toutes les guerres, c'est les obligations
non,
qui vont
tapis.
Non,
c'est le deuxième, parce que le premier, c'est la vérité. Puis ensuite, il y a les obligations.
On ne ment jamais autant qu'après la chasse, pendant une guerre et avant des élections.
Oui, c'est ça. C'est les trois périodes où on ment. Qu'est-ce que tu faisais avec cette femme aussi? Je lui disais bonjour, c'est tout. Quoi.
Ah, oui, oui.
Merci. Et donc, vous voyez, on est dans une période où il peut y avoir, si le prix de l'énergie monte, une baisse sensible des marchés qui était quand même assez chère, qui était déjà assez chère. Tu vois, le PI ratio. Et la ligne noire, là, ben, elle était quasiment au plus haut, presque au niveau de l'an 2000, où on sait très bien qu'elle était chère. Vous avez vu comment elle s'est pété la gueule après, et ça s'est produit en même temps qu'une hausse des prix du pétrole. Quoi. Donc, on pourrait avoir une répétition du scénario 2000-2012. Quoi. Tu vois, je ne dis pas que ça va se passer, mais ce n'est pas impossible. Quoi. Alors ça, c'est le premier. Alors le deuxième graphique, c'est quelque chose que je vous ai souvent montré dans le passé.
C'est celui-là.
Ça s'appelle The 30-Year Cycle in the Oil Industry. Je m'excuse, c'est en français.
Je l'ai en français. Industrie pétrolière, le cycle de 30 ans.
Toi, tu l'as en français, moi j'ai en anglais. C'est pas grave, c'est le même.
Je l'ai deux fois en français, tiens.
Très bien. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est simplement l'industrie pétrolière, le cycle à 30 ans. C'est simplement, vous faites le ratio entre le prix du marché, le Standard & Poor's 500, et le prix du pétrole. Vous voyez, c'est-à-dire que, puisque l'énergie, l'économie, c'est de l'énergie transformée, tu vois bien qu'on se balade, il y a des moments où les gens croient qu'on est incapable de transformer l'énergie de façon rentable, c'est comme en 1920, ou en 1950, ou en 1980, ou en 2010, tout ça, c'est des moments où le marché est très bon marché par rapport à l'énergie. Et puis quand tu passes au-dessus, tu vois qu'il y a des moments où l'énergie et le marché est très cher par rapport à l'énergie, comme en 1930, comme en 1965-70, comme en 2000 et comme aujourd'hui. Donc, ce qui est embêtant, c'est ce qu'on a beaucoup signalé à tous nos clients dans l'Université d'épargne, c'est que il semble que, on vous a souvent parlé du cycle du cochon, tu sais, les paysans qui font des cochons, et puis comme tout le monde, les paysans font du cochon parce que le prix est cher, ben, l'année d'après, il est pas cher parce qu'il y a beaucoup trop de cochons, donc ils cessent de faire du cochon, et à ce moment-là, le prix du cochon monte beaucoup l'année suivante, donc c'est le cycle du cochon. Il semble qu'il y ait un cycle du cochon dans l'énergie d'à peu près 30 ans.
Oui, alors ça, on en a souvent parlé, le cycle de l'énergie à 30 ans, et c'était toujours dans cette approche qu'à l'université de l'épargne, en regardant ce cycle de l'énergie à 30 ans et indifféremment en dehors...
Et le fait qu'il était très cher. Hein.
Et voilà, et en dehors de toute analyse géopolitique qu'on ne pouvait pas prévoir, par définition n'étant pas Madame Irma, qu'on avait dit à nos petits scarabées de se positionner sur des valeurs pétrolières, qui ont popoté pendant un temps...
Alors là, c'est le graphique suivant, qui s'appelle États-Unis indice des valeurs énergétique contre un 10 standard pour 500. Vous voyez, en bas, voyez, je l'ai commencé au moment où on a dit d'acheter les valeurs pétrolières à nos chers amis de l'UDE. Donc, vous voyez, c'est, ça a commencé à la ligne pointillée qui est au milieu. Là, on leur a dit de le faire. Donc, le marché était, mettons, le ratio entre le marché des actions et l'indice Standard & Poor's était à 100, mettons. Tu vois, on est à 100. Et puis vous voyez, ça glandouille avec beaucoup de... Ça reste à 100 comme ça, il se passe rien. Mmh. Et comme ça faisait 25% du portefeuille, ça, c'était quand même embêtant. Quoi, parce que
ça popotait, ça blobloté.
Il se passait rien. Quoi.
Puis heureusement, alors, l'or performait bien.
L'or performait bien. Mais alors, ce qui se passe à ce moment-là, regardez, à partir de la fin décembre, début janvier, d'un seul coup, les valeurs pétrolières se mettent à péter à la hausse. On est passé donc de 100 à 132, c'est-à-dire qu'on est monté de 32% en deux mois, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des gros malins qui se disaient que si les États-Unis envoyaient des bateaux au Moyen-Orient, c'était peut-être pas pour aller...
Alors, il y a eu ça, puis n'oublions pas le Venezuela.
Il y a eu le Venezuela
qui a quand même fait aussi un petit peu
de... Donc, on s'est rendu compte que les États-Unis s'intéressaient de près aux valeurs pétrolières d'un seul coup, et elles sont montées de 32%. Comme on en avait 25%, allez, ben 25% de 32, ça fait 8. Donc nos portefeuilles ont pris 8 points à ce moment-là, simplement à cause de cette position. Mais pourquoi on avait cette position? Parce que c'est très important. On avait cette position parce qu'on se disait que, comme j'ai beaucoup d'expérience, hein, c'est la quasi-totalité des gamelles que j'ai reçues dans ma vie, c'est parce que l'énergie... se mettait à monter comme une fusée. Et donc j'ai une tendance à avoir des valeurs énergétiques dans mon portefeuille, même quand c'est pas
couvrir,
évident.
Pour te couvrir.
Comme un hedge, en me disant si...
Sûr. C'est
donc,
logique.
C'est la construction du portefeuille,
si
ça.
Si tu as vécu justement ces horribles années 70 quand t'es en haut à gauche,
ben regarde,
tu
non seulement
dis...
ça, même en 70, je veux dire même en 2000, t'es passé, t'as quand même perdu 50% de ton portefeuille parce que le prix du pétrole est monté de 60 à 120 pendant
et
ce
voilà.
moment-là.
Donc, et là, tu te retrouves en culotte courte et tu dis dans ces cas-là, qu'est-ce qui aurait suffisamment bien performé en amont pour que je puisse prendre cette perte? Tu te dis, il vaut mieux au cas où que j'ai ça parce que si ça arrive, alors là, c'est le grand égalisateur.
Et en plus, comme les sociétés pétrolières donnaient du 4 ou 5% de rendement, je me suis dit, bon, bah...
Oui, une petite totale et ainsi de suite.
On se fait pas de soucis, quoi. Donc voilà, c'était un peu ça la raison. Donc l'idée de base, c'est de se dire, dans le portefeuille, en quelque sorte, les portefeuilles tels qu'on les a bâtis pour les gens de l'UDE, il n'y a pas de raison de se faire de soucis. Tu vois, on en parlera avec eux dans le détail, beaucoup plus en détail qu'ici, mais il n'y a pas de raison de faire du souci parce que leur portefeuille, ben aujourd'hui, il est à 100, bas 100 en octobre 2024. Il est à 132 aujourd'hui.
Encore une fois, la LADA se porte bien. Tout le monde sur le site dit, bon, écoutez, moi, je me suis couché, j'ai dormi comme un bébé, parce que je savais qu'il y avait une guerre mondiale, mais l'ETF avait fait plus 7%, l'ETF pétrole.
Voilà, je ne me fais pas de soucis. Donc, encore une fois, vous voyez, il y a quelque chose de très important, c'est quand vous vous occupez de finances, de gestion de portefeuille, etc., c'est la construction du portefeuille. La raison pour laquelle je l'ai fait, c'est aussi pour une raison très simple, c'est qu'en 1983, au plus haut du pétrole, hein, dans le cycle précédent, les valeurs pétrolières représentaient 30% de l'indice.
Oui.
Donc, ceux qui achetaient l'indice en indice
avaient une couverture.
Avaient une couverture interne.
Ça, tu l'as dit il n'y a pas deux semaines.
Je l'ai pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs. Et il y a. Aujourd'hui, les valeurs pétrolières dans l'indice représentent 3% de la capitalisation. C'est-à-dire que vous n'êtes plus du tout couvert contre le risque énergétique.
Non seulement ça, mais en plus, les États-Unis sont surreprésentés dans l'indice. Donc il y a un double focus.
C'est-à-dire qu'il y a un double. Il y avait une absence d'énergie et une surconcentration. Donc c'est pour ça.
Surpondération
des États-Unis. Donc on avait dit nous on avait rien aux États-Unis.
Dans les actifs États-Unis, en plus, les Magnificent Seven qui font une grosse part quand c'est pas de l'IA.
C'est une énorme part et c'est une énorme part qui est extraordinairement consommatrice d'énergie. Donc il me semblait qu'il y avait un loup, c'est-à-dire que tu disais je vais acheter des consommateurs d'énergie et personne faisait des centrales nucléaires, tu vois, tu te dis il y a quelque chose qui s'additionne pas là, donc tout ça c'est pour vous expliquer les espèces, c'est du billard à plusieurs bandes quoi, là c'est en quelque sorte les énergétiques qu'on a dans le portefeuille, c'est les troupes de réserve, tu sais, celle que tu appelleras si commence à y avoir une débandade, quoi. La débandade, elle a peut-être lieu, mais en tout cas, on a les 25% qui sont là, et avec l'or, qui vont nous permettre de tenir le choc, quoi. Donc ça, la première conclusion à laquelle on arrive, c'est qu'on a un choc exogène. Il est pénible pour le pétrole, et il peut être très grave pour le gaz. Nous avons pris des précautions avant pour que, au cas où ça se passerait, on ne soit pas détruit. Et encore une fois, les très bons gérants, ce n'est pas ceux qui font très bien quand ça monte, c'est ceux qui survivent plusieurs cycles, quoi. Ça paraît idiot, mais dans le fond, les gars qui se font tuer au premier jour des combats, ils transfèrent assez rarement leur ADN, quoi, leur ADN, quoi, tu vois, ce qui nous intéresse tous, c'est transférer le capital d'un cycle à l'autre, et comme ça, bon, c'est ce qui est en train de se passer, donc ça, on se fait pas trop de soucis. Maintenant, et on peut essayer de réfléchir, une fois qu'on a compris que le portefeuille allait à peu près, quoi, qu'est-ce qui va se passer ? Plus généralement dans les économies, etc.
En Iran ?
Qu'est-ce que ce trouble en Iran va créer comme autre trouble ailleurs, quoi ? Alors, la première des choses qu'il faut dire, c'est que dans cette crise, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que l'Iran attaque les pays arabes.
Oui. Ça a été la première chose, parce qu'on était avec mon frère à ce moment-là, on a quand même tous été sidérés qu'ils s'attaquent à Abu Dhabi et à Dubaï, qui sont quand même l'endroit où ils ont leur propre pognon.
Et à l'Arabie Saoudite.
Oui, à l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que dès le début, les gars se sont dit, ok, tapis, on y va et on...
C'est ça, aussi bien Trump que les Iraniens jouent tapis.
Oui, dès le début, c'est-à-dire on va directement...
C'est un truc de Clausewitz qui dit que les... qui est un spécialiste de la stratégie militaire.
De la guerre,
si vous voulez, moi. Donc, il y a Raymond Aron et René Girard qui ont écrit deux bouquins passionnants sur Clausewitz, auxquels j'ai rien compris. Mais ça avait l'air très bien, quoi, parce que c'était très compliqué ce qu'il disait. Il y a des moments où il faut reconnaître qu'on est limité intellectuellement. Je me suis dit, je les ai lus.
Tu les as peut-être lus à un moment où ton attention n'était pas au top.
Non, mais tu sais...
Je l'ai le bouquin, mais c'est vrai que je l'ai pas... Il y a un mot en japonais pour définir le fait d'acheter des livres et de ne pas les avoir lus encore. Ça a un nom très joli. Je sais exactement où il est dans ma bibliothèque, mais c'est vrai que je ne l'ai pas lu encore.
Essaye de le lire, tu verras, c'est balèze.
Moi, c'est Hannah Arendt.
Hannah Arendt, j'ai toujours dit que Raymond Aron, il écrivait comme un Allemand, quoi. Donc c'était toujours compliqué.
J'arrive à le lire, Aron.
Pourtant, j'adore René Girard, d'habitude, il écrivait clairement, mais j'ai eu du mal. Alors, ce que dit Clausewitz, l'embêtement avec la guerre, c'est que les participants montent aux extrêmes. Et que dans un monde où il y a l'arme atomique, les extrêmes, ça peut être un peu embêtant, quoi. Donc on sent bien que les Iraniens avaient une certaine tendance à aller vers les extrêmes toujours, et donc c'était pour ça peut-être qu'il fallait les empêcher d'avoir l'arme atomique, si j'ose dire, parce que eux ils seraient assez couillons pour s'en servir, tu vois ce que je veux dire, c'est pas... Enfin, j'en sais rien, mais enfin, c'est l'analyse qu'on peut faire. Quoi.
En tout cas, peut-être l'analyse qu'a fait M. Trump, puisque il est allé sur ça directement. Et force est de constater qu'effectivement, en attaquant l'Arabie Saoudite, en attaquant Dubaï, en attaquant Abu Dhabi, on est quand même allé aux extrêmes directement.
Directement. Et ce qui est étonnant, si tu veux, c'est qu'ils aient eu leur fusée, tout ça, qui était déjà prête pour aller dessus. C'est-à-dire que c'était pas un truc...
C'était pas « Oups, m'a trompé », pas du tout.
Pas du tout, ils y sont allés directement. Donc, alors, ils ont attaqué en particulier la principale raffinerie d'Arabie Saoudite, qui fait 500 000 barils par jour, ça doit être la plus grosse du monde d'ailleurs, d'Aramco, là. Et que, du coup, il y a eu des incendies, je sais pas quoi. Mais s'il y a 500 000 barils de produits distillés qui disparaissent du marché, là, ça vous... C'est-à-dire que le pétrole ne montera peut-être pas, mais l'essence sans doute, quoi. C'est, tu vois ce que je veux dire, c'est, donc il y a des dégâts collatéraux, mais moi, c'est la première chose qui m'a stupéfait, c'est qu'ils aillent vers ça. Du coup, on retrouve la vieille ON des chiites et des sunnites.
Les sunnites, bien sûr, bien évidemment.
Surtout que les chiites ont une certaine tendance au martyr, au dolorisme. Tu sais, ils aiment bien...
Ce qui arrive dans pratiquement toutes les théocraties.
Oui, donc il y a un vrai problème. Alors, la première conclusion que je tire, c'est que comme les deux sont en train d'aller aux extrêmes...
Trump étant assez connu pour, depuis sa taxation des pingouins, pour aller directement là où il faut
extrêmes,
pas.
Ouais. Et là, il est en train de dire ça durera ce que ça durera.
Ouais. Ah, mais c'est vraiment all-in. Dès le début, on y va. Ça prendra 5 à 6 semaines, mais ils vont tout mettre dedans.
Voilà, ils vont tout mettre dedans. Donc, ça veut dire que l'analyse qui est faite, c'est que ce qu'il faut... Et encore une fois, je ne porte pas de jugement, c'est je vous
non,
dis ce que...
Non, on n'est pas là pour... De toute façon, nous, on est quoi? On est des analystes, on est là sur la bande de... On n'a pas d'avis à avoir sur la politique étrangère.
Et je me dis, ça veut dire une chose, ça veut dire que aussi bien les Saoudiens que les Arabes, parce que les Perses ne sont pas des Arabes.
Oui. J'ai repris quelqu'un hier sur Sud Radio qui a dit oui, tous ces pays arabes qui ont tendance au martyr et puis l'Iran en tête de ces pays arabes. Je lui dis c'est peut-être parce qu'au départ, les Perses
ne sont pas des Arabes. Et donc, c'est un point important. Ça veut dire qu'ils ont fait l'analyse que l'Iran qui a financé le Hamas, le Hezbollah, le Fatah, tous les mouvements terroristes dans le monde, Daesh et tout ce qu'on veut, les puissances ont décidé que ça allait bien et qu'il fallait se débarrasser de ces gens qui empêchaient la paix au Moyen-Orient. Tu sais, c'est les accords d'Abraham, quoi. Ouais. Donc...
Mais là, en tous les cas, en casualties, ce qu'il y a de terrible sur le côté, c'est que ça envoie à la finance un message horrible pour Abu Dhabi et pour Dubaï, qui étaient quand même les fers de lance d'une nouvelle économie musulmane, quelque part.
Oui, tout à fait.
Et puis ce qu'il y a de bizarre, c'est que les Iraniens ont leur pognon là-bas, les grandes familles.
Oui, les grandes familles, alors... C'est un détail, mais ça veut dire en tout cas que aussi bien les Iraniens que les Américains et les Israéliens ont décidé que cette fois-ci, il y en a un des deux qui allait rester au tapis.
Ouais, oui. C'est un combat à mort, c'est pas un combat au premier sang.
C'est pas un combat au premier sang. Cette fois-ci, c'est vraiment un combat à mort. Alors, c'est bien triste pour le peuple iranien, mais je crois que c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, reste le détroit d'Hormuz.
Oui.
Et alors là, il y a quand même des loupés dans la préparation. C'est que, pour fermer le détroit d'Hormuz, les Iraniens n'ont qu'à mettre des mines.
Mmh.
Et, aussi curieux que ça paraisse, les Américains n'ont pas envoyé un bateau minier. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Je ne sais pas s'il y avait un endroit où tout le monde doit passer et qui peut être bloqué par des mines, à la place d'envoyer deux porte-avions, j'enverrais un porte-avions et une dizaine de bateaux anti-mines. Tu vois, c'est... Non, ils envoyaient des... Donc, ils ont pas très bien compris la puissance que pouvait avoir l'Iran s'il fermait le détroit d'Hormuz. Ou alors, ils ont une façon d'empêcher les Iraniens de le faire, mais je ne vois pas ce que c'est. Donc, ça veut dire qu'on risque d'avoir un blocage des détroits d'Hormuz qui durera...
Est-ce que les Américains ne pourraient pas faire un...
Ah ben non, parce que s'il y a des mines, elles flottent. Tu ne les vois pas. C'est très spécial, les mines. Tu sais, maintenant...
Est-ce qu'on ne peut pas passer par les terres côté chinois? Enfin, côté...
Non, les terres, il y a un pipeline qui part, en quelque sorte, au travers de la Syrie vers la Méditerranée, là, mais ça prend à peu près que un quart des exportations possibles, et c'est en Arabie Saoudite. Il y en a un deuxième qui allait, du Qatar vers le Pakistan, etc., mais aussi qui peut pas porter beaucoup de choses. Donc il n'y a pas vraiment, en dehors des bateaux, l'idée c'était de faire un grand pipeline qui serait parti du Qatar, par exemple, pour le gaz, qui serait remonté en Arabie Saoudite, puis ensuite en Syrie, puis de là il serait passé en Turquie, puis il serait allé en Europe, tu vois, c'était l'idée pour foutre en l'air la Russie, ça.
Mais nous, la France, on ne pourrait pas acheter à l'Algérie du gaz
Ils n'en ont pas tant que ça, puis on est très fâchés avec l'Algérie.
Bah oui, je sais qu'on est très fâchés.
Et en plus, on n'en utilise pas tellement. Si tu veux, le plus gros utilisateur de gaz en Europe, c'est l'Italie. L'Italie est très, 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 très dépendante du gaz.
Ah bah ça va être embêtant pour elle qui est en pleine croissance.
Oui, c'est pas... L'Allemagne, on utilise pas mal aussi. Alors la question, c'est... La réponse, si tout ça se passe mal, ce serait de réouvrir le gaz russe.
Bah oui, voilà. Oui, oui, mais alors... Bon.
Parce qu'il ne faut pas oublier, pendant la guerre, quand ça a commencé, en 2022, là, le pétrole était monté de 30 dollars, ou je ne sais plus, ce qui était beaucoup. Mais sur un prix pétrole équivalent, le gaz était passé... à 400 dollars le baril, tu vois. C'est-à-dire, le gaz était beaucoup plus monté. C'est-à-dire que... Donc, on va avoir des... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, maintenant, en termes... économiques? Ben, ça veut dire que quand le prix du gaz monte, ou quand le prix du pétrole monte, tu perds tout ce que tu veux sur les valeurs à revenus fixes, les obligations.
Ah bah ça va être la première. Et c'est important parce que beaucoup d'entre vous ont encore en tête, et beaucoup de gérants ont tendance à dire, oui, un portefeuille doit être construit 60-40, vous devez avoir 40% d'obligations, 60% d'actions, ou alors...
Ça a marché 40... pendant 40 ans, mais ça fait
marché,
3 ans.
Voilà, ça a marché dans les temps anciens. Ça ne fonctionne plus aujourd'hui.
C'est un désastre, maintenant.
Et si aujourd'hui vous avez 40 ou 60% d'obligations, ou quoi que ce soit en marché obligataire, encore une fois, quand on parle d'obligations, on ne parle pas d'obligations d'entreprise, on parle d'obligations d'État, quelles que soient les obligations d'État, sauf à la rigueur de la Suisse ou whatever, mais ce n'est pas vraiment
Nous,
en général...
Nous, on a des obligations japonaises, mais c'est parce que le Japon a des comptes courants excédentaires monstrueux, et que sa monnaie est sous-évaluée de façon gigantesque.
Alors, puisque tu parles du Japon, certains de nos adhérents ont posé la question des conséquences que cela pourrait avoir, toute cette histoire, justement, sur un marché obligataire japonais.
Parce qu'on sait que c'est pas... La réponse, c'est pas bon, mais la réponse est assez simple, c'est que si le yen reste là où il est, ça va créer des tensions inflationnistes au Japon, ce qui sera pas bon pour le marché obligataire. Mais rien n'interdit au Japon de rapatrier une partie de ses biens extérieurs et de faire monter son yen. Et à ce
oui, mais ça c'est la chose qu'on dit toujours, donc, mais on ne sait jamais pourquoi les Japonais rapatrient pas.
Là,
dans ces cas-là, qu'ils bougent les taux.
Il faudrait
qu'ils bougent les taux, déjà.
Pas tellement. Si la monnaie se met à monter, les autres tous les gars vont se dire, il suffit que la Banque centrale commence à faire monter la monnaie, et tu verras ils se précipiteront.
Encore une fois, c'est la BOJ qui
doit... Ils sont pas mal, les taux japonais. Ils sont aux alentours de 3%. Ça va bien, quoi. Ils sont pas si mal que ça. Donc, au moins au Japon, quand tu as des obligations japonaises, tu es protégé par une monnaie qui est sous-évaluée de 2 ou 3 écarts types.
Si les marchés américains commencent à devenir ingérables et partent dans tous les sens, comme il est possible que ce soit le cas, il est possible que les investisseurs japonais qui sont assez fortement à l'extérieur se disent « Ouh là là, les gars,
je rentre.
On réduit la voilure et on attend que ça passe. »
Oui, Watanabe, à ce moment-là, vend. Donc, le marché japonais, au moins, on l'a acheté parce qu'il était grotesque. Comment sous-évalué,
oui, tu vois,
parce que les autres, par exemple le marché français, est surévalué.
Oui.
Donc le marché américain est surévalué. Donc quelque part, Tu te dis, bon ben...
Et les Allemands qui ont terriblement besoin de toutes les sources d'énergie...
Ah ben, les Allemands, ils vont apprendre plein la gueule pour pas rendre.
Eh ben, c'est ce qu'on pense.
Et ça, c'est madame... comment elle s'appelait, la première ministre, qui avait fermé les centrales nucléaires. Ça a été une connerie, mais...
Parce que là, ils sont en short.
Là, ils sont... Ben, ils se retrouvent... Si on a une hausse des prix de l'énergie en Allemagne... Avec eux, ils utilisent beaucoup le gaz, alors ce qu'ils font, c'est qu'ils rouvrent des mines de charbon, ces salopards.
Oui, alors, et nous, pendant ce temps-là, la Commission européenne a brillamment voté hier le fait que les doses individuelles dans les hôtels soient interdites, les petites doses de shampoing, les petites doses... Parce que c'était quand même un sujet super important. Alors, by the way, ça me fait quand même rigoler, parce que... Dans les kits qui sont dans les petits trousses qui sont données aux migrants et aux SDF, il y a toujours des petits shampoings individuels, des trucs pour que les gens aient une hygiène corporelle. On leur donne des petits, ce qui paraît assez logique. Mais de sorte que l'Union européenne, dans sa grande mansuétude, va faire fermer les sociétés qui produisent ces genres de choses. Et donc, bientôt, il n'y en aura plus dans les trousses de leurs chers migrants qui font venir à grand bruit.
Au moins, on saura qu'ils sont migrants parce qu'ils sentiront mauvais, quoi. Les pauvres.
Non, mais c'est pas ça. C'est que, si tu veux, dans les hôtels, ils sont obligés de mettre les grandes bouteilles et ainsi de suite. Mais moi, ce qui me révulse, c'est de me dire que l'Union européenne est obligée de passer son temps à faire ce genre de conneries.
Qui n'intéresse personne.
Et tu as envie de dire, mais.
Vous êtes
donc
fou,
là,
quoi.
On va avoir un conflit mondial et tu as l'impression que les gars, ils sont en train de dire, tu sais ce qu'on va faire? On va interdire les ports USB. Tu te dis, oui, ça va être une bonne réponse à la crise énergétique.
Réponse. Voilà, c'est donc. Alors, tout ça, ça nous amène à un monde. Bon, alors, les obligations vont vous douiller. Alors, vous voyez que la Chine, elle est à peu près. Elle a fait tels investissements dans l'énergie qu'elle est à peu près 85-90% autosuffisante entre le charbon, le nucléaire, les immenses barrages qu'ils ont faits, tout ça. Donc, à la limite, 10%, tu peux gérer, quoi. Tu vois, si t'es.
Oui, tu peux amortir.
Tu peux faire des cycles. Tu peux le faire pendant la journée, pendant la nuit, etc.
Ouais,
ça peut aller. Donc, la Chine ne devrait pas être trop touchée. Maintenant, ce que je vais voir, vous connaissez tous ma théorie du serpent monétaire asiatique, vous savez, comme que la Chine maintient l'ordre autour d'elle. Bon, s'il commence à y avoir des pays dans sa zone qui sont atteints, des pays qui sont très importateurs, je sais pas, comme je sais pas, Taïwan ou des gens comme ça, est-ce que la Chine va vouloir et réussir à stabiliser ses monnaies contre elle? Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, tu aurais tout ce bloc de monnaie qui montrait en quelque sorte emporté vers le haut, vers la Chine, ce qui ferait que leur coût de l'énergie ne montrait pas tant que ça, quoi. Tu vois, ils pourraient le payer. Et puis en plus, ils ont des réserves de change monstrueuses. Bon.
Et ça, on l'a vu aussi.
On l'a vu souvent. Donc, ça, cette zone du monde, la zone européenne, la zone asiatique, je comprends comment ça peut tenir. Le Japon est un peu le fou du roi là-bas, mais enfin.
La folle du logis.
Bon, les États-Unis, ils sont autosuffisants énergétiquement. Donc, le problème aux États-Unis, c'est le prix du pétrole monte, c'est que New York en prend plein la gueule et que le Texas devient de plus en plus prospère. Comme il y a assez peu de gens qui votent pour Trump à New York, ça va pas l'embêter tant que ça, quoi. Donc, la zone américaine, on peut s'imaginer que. Là aussi, elle a une espèce de stabilité puisque son coût de l'énergie devrait rester. En tout cas, il y a deux choses dans l'énergie qu'il faut bien comprendre. Il y a le coût et la disponibilité.
Sachant que la disponibilité va avoir une influence à terme sur le coût.
Sur le coût, mais le coût peut. Mais nous, on a fait des tas de calculs avec Didier pendant la crise de l'énergie là, dans les années 2000. On se rend compte que si le prix de l'énergie monte, ça fait baisser ton PIB, tu sais, moi.
Bien sûr.
Mais si t'as pas d'énergie du tout, à ce moment-là, le PIB, il tombe à zéro.
Bah, tu vois ce que je veux dire? Par définition, oui.
Par définition, tu vois, ça paraît idiot, mais... Donc, si tu veux, la plupart des gens, dans tous leurs modèles mathématiques, etc., ils introduisent toujours un coût de l'énergie qui est plus élevé, mais l'énergie reste disponible. Or, si elle est pas disponible, tu t'arrêtes. Tu vois, ça s'arrête, quoi, boum. Et donc, est-ce qu'il y a des pays dans lesquels l'énergie ne sera plus du tout disponible? Bien sûr, c'est cela qu'il faut éviter, quoi.
J'ai envie de dire, les pays dans lesquels l'énergie ne sera pas disponible, ça va être déjà des pays qui n'ont pas les réserves nécessaires. On vient de voir que la Chine avait un an et que nous, en France, par exemple, nous y avions 3 mois. Donc 3 mois, ça va être dur pour amortir si ce conflit dure 3 mois. Comme c'est le cas, est-ce que le roulement va être le temps
en tout
que
cas pour le gaz, on n'y arrivera pas parce qu'il sera hors de prix.
La jonction, mais il est déjà hors de prix, il a déjà redoutablement augmenté de 30%, je crois, pour le petit.
Mais c'est rien par rapport aux hausses précédentes, c'est-à-dire qu'il peut doubler, tripler ou quadrupler le gaz.
Mais ce qui était déjà horrible pour les ménages. Parce que c'est une charge fixe, comme on sait, dans ce qu'on appelle le portefeuille gilet jaune, c'est-à-dire les gens qui sont contraints d'avoir ce chauffage. Et cette hausse du gaz, oui, mais si tu es déjà le cas avec des gens qui ne chauffent que 2 heures par jour ou 3 heures par jour, ou qui déjà ne chauffent pas à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire ?
C'est exactement ça. Donc, encore une fois, c'est les petites gens dans les pays les plus vulnérables qui vont en prendre plein la tête.
Et l'horrible chose, c'est de se dire que la France est devenue un pays vulnérable.
Oui, mais en plus, lui, il suffit simplement de sortir tes accords imbéciles sur l'électricité l'Europe.
Les accords de l'ARENH.
L'ARENH, et à ce moment-là...
L'Espagne l'a fait dès le début. L'Espagne, dès le début, a dit, écoutez, si ça fait rien à personne...
D'ailleurs, elle se porte pas si mal que ça.
Voilà, si ça fait rien à personne, nous...
Je sors, donc, ça veut dire... Mais à ce moment-là, si tu sors de l'ARENH avec le président qu'on a, ça veut dire qu'il renonce à ses ambitions...
Si vous voulez, il faut quand même voir quelque chose, c'est que dans cette histoire, on a vu l'élocution du président Macron hier, j'imagine que vous allez en parler avec Léonard, c'est que la grande idée de Macron depuis 3-4 ans, c'est quand même de vendre le bouton de l'arme nucléaire à l'Allemagne.
Et l'armée française.
Et l'armée française, parce que pour sa grande sainteté, qui soigne les escrocs, la grande idée est quand même, j'imagine, de récupérer le poste de Madame von der Leyen, mais il ne s'agirait pas que ça soit juste...
Mais en tant que président
de l'Europe. Voilà, d'une Europe qui serait un peu plus une confédération, quelque chose d'un peu plus noble que ce qui est le cas aujourd'hui, quelque chose qui siérait à sa sainteté.
À son immense compétence.
Voilà.
Donc, c'est ça. Le vrai problème, c'est que une fois de plus, quand vous analysez, vous faites les trucs, les États-Unis, l'Europe, etc., l'Asie et tout, vous dites, ceux qui vont en prendre plein la gueule, c'est les Européens. Donc on se dit, mais ils sont enragés, quoi. Ils sont enragés, et comme tu dis, ils font des réglementations sur les shampoings que vous avez dans votre...
Par ailleurs, dans les scénarios possibles, on a le scénario 1 qui est que l'Iran se couche tout de suite, que ce soit un coup d'état militaire et que ça se passe bien, mais scénario 2... quand même, et regardons-le, c'est qu'ils prennent les armes et qu'ils se battent, et que les États-Unis disent ça sera 5 ou 6 semaines, comme ça devait être au Vietnam, et que ça soit 5 ou 6...
comme ça devait être en 14-18, comme
voilà,
ça devait être...
Et que ça soit pas vraiment 5 ou 6 semaines.
Ça peut durer. Ça peut durer, et à ce moment-là, il est tout à fait évident que, si j'ose dire, l'un des gagnants les plus évidents dans tout ça... c'est la Russie.
Le Brésil, la Colombie.
Oui, le Brésil, c'est un pays qui sont indépendants, mais le Brésil, la Russie, ils sont les seuls à avoir des capacités immédiates d'exportation.
C'est évident.
Et donc, il y a peut-être un certain nombre de pays, comme je sais pas, la Hongrie et tout, qui vont dire, ça ne vous fait rien. Moi, je vais acheter mon gaz en Hongrie. En Russie, et puis j'en ai rien à foutre de ce que pense Madame von der Leyen. Hein.
Ce qui va être intéressant, sachant que tout ça, comme vous le savez, a été sorti de SWIFT, de se poser la question de quelle monnaie ces accords entre Hongrie et Russie vont-elles se passer Parce que je ne vois pas pourquoi ils repasseraient par le dollar.
Oh, ça ne passera ni par l'euro. Donc il faudra que ça passe soit par la monnaie hongroise qui existe.
Oui.
Qui n'est pas dans l'euro.
Mais est-ce que la Russie va se charger en monnaie hongroise ?
Si elle peut acheter des choses...
En Hongrie.
En Hongrie, pourquoi pas, mon Dieu ? Mais en même temps, j'imagine que la monnaie hongroise est acceptée en Tchéquie, est acceptée en Pologne.
Peut-être. Tu sais, c'est drôle parce que tu dis souvent ça à propos de la Suède, que dès qu'ils ont réouvert les anciens... Ils sont précipités à refaire leurs anciens accords
avec,
de marque.
Avec les actes à Balt, oui, ça a été instantané.
Instantané. Donc, et là, on peut se dire peut-être que de ça peut renaître aussi l'ancien rideau de fer. Enfin,
non, pas l'ancien rideau de fer. Ce qui va renaître, c'est l'Autriche-Hongrie.
Enfin, avant.
C'est l'Autriche-Hongrie.
Voilà.
L'Autriche-Hongrie qui a été détruite par le traité de Versailles en 14-18 et qui est en train de se refaire sous nos yeux. Mais l'Autriche-Hongrie à ce moment-là, ça veut dire qu'elle se sépare de l'Europe.
Oui.
Tu vois, c'est. Donc ça va mettre les Baltes dans un état second, mais il n'y a pas de raison, si tu veux, que la Hongrie.
Ben là, ça va être chacun pour soi. Si on commence à rentrer dans ce qui semble être cette crise énergétique, il n'y en aura pas pour tout le monde, et ça va par définition être chacun pour soi. Et ça n'est pas avec le leader suprême qui est le nôtre qu'on va tirer notre épingle du jeu, parce que j'ai bien peur que.
Nous,
soit juste très occupé.
Depuis la réunification d'Allemagne, il est évident que dès qu'il y a un pet, c'est la France qui paye. Quoi. Parce qu'on était resté dans l'euro, et en fait, c'est nous qui avons payé pour la réunification d'Allemagne, quoi. Ce qui n'était pas une bonne idée. Et alors.
Parce que là, ce qu'il faut quand même retenir d'aujourd'hui, c'est que la possibilité de rentrer dans ce qu'on appelle une récession inflationniste.
C'est horrible.
A triplé. C'est-à-dire qu'on déjà. On regardait la possibilité.
C'était zéro à la fin de l'année dernière, et maintenant, non, c'est pas zéro.
Et la récession inflationniste est absolument ce qu'on peut faire de pire pour les petites gens et aussi pour la gestion de portefeuille, parce que quand vous êtes dans une déflation, vous pouvez encore vous mettre dans des obligations d'État
suisse, allez.
De pays bien gérés, il faut les trouver, mais voilà. Mais quand vous êtes en haut à gauche, récession inflationniste...
À ce moment-là, il n'y a que du cash.
Dans la meilleure monnaie.
Dans la meilleure monnaie, alors bon, c'est-à-dire vous pouvez vous coller des cash... Peut-être, je sais pas.
Bon, enfin, vous faites pas grand-chose, c'est pas parce que tu veux acheter du...
Non, mais tu peux te mettre, je sais pas, en monnaie de Singapour, allez, tu vois, c'est...
Oui, tu perdras pas, mais tu vas pas gagner.
Ah non, tu auras des taux d'intérêt qui sont peut-être un peu élevés, mais en tout cas, tu te feras pas massacrer, mais sur les... c'est-à-dire que le seul endroit où tu perds pas d'argent, c'est sur le cash. Mais tu en perds sur les obligations, tu en perds sur les actions, et l'or, comme le cash monte, ben, il fait moins bien, tu vois, c'est... Donc c'est vraiment, pour un gérant, c'est la période la plus difficile, de loin. Et ce qui est horrible, c'est qu'il n'y a pour ainsi dire pas de gérant, qui l'est, à part moi, hein, parce que je suis un vieillard, mais qui l'est traversé.
Bien sûr, parce que, encore une fois, ça nous ramène au 74 et que...
Voilà, et que personne n'était là, quoi. Moi, quand je vois que toutes ces gérants qui me disent « Moi, je suis né en 92, je suis né », j'en dis « Vous n'avez rien vu, mon pauvre ami ». Mais donc, c'est vraiment le truc important, c'est que... Donc, il y a un choc exogène, et si on résume, il y a un choc exogène qui se produit. Ce choc exogène, il a un impact profond sur l'énergie, donc c'est un choc exogène qu'on doit prendre en compte. On ne peut pas dire que ça n'a pas d'importance. Troisième question, c'est est-ce que les portefeuilles, tels qu'on les a recommandés aujourd'hui, vont être impactés ? Pour l'instant, non. Ils ont été faits pour ça, si j'ose dire, en prenant ça en compte. Donc, pour l'instant, ça tient la route. Mais si les choses se dégradent, il faudra peut-être prendre quelques décisions supplémentaires. Quoi.
Au fur et à mesure que les situations se dégraderont ou pas.
Voilà, on verra.
Voir
ça. Pour l'instant, si j'ose dire, c'était quelque chose auquel on s'attendait, mais contre lequel on s'est prémuni au cas où.
Et on est très content, quelque part, sur la base du cycle à 30 ans de l'énergie, d'avoir recommandé des valeurs pétrolières. Mais on ne l'avait pas fait pour cette raison-là, parce qu'encore une fois, personne n'est Madame Irma. Mais écoutez...
Mais ça, c'est simplement le fruit de l'expérience. C'est que toutes les gamelles que j'avais prises dans ma carrière, c'était toujours l'énergie qui montait.
Oui, donc l'énergie est une position antifragile par essence.
Voilà, en tout cas, ça stabilise ton portefeuille.
Ça stabilise parce que quand il y a un choc exogène ou un choc de compétitivité, quoi que ce soit, l'énergie est toujours là.
Pour l'instant, pas de panique. Il est urgent de ne rien faire et il est urgent de voir ce qui se passe parce que le portefeuille que vous avez vous permet d'attendre. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il est... Est-ce qu'il faudra faire autre chose ? Ben, on aura d'autres occasions de se parler, si j'ose dire.
Mais si ça devient absolument... Si la guerre sur l'énergie devient absolument horrible, il sera peut-être nécessaire, très très à terme, de sortir de toutes les actions, même des actions asiatiques. Mais on n'en est pas là. Parce qu'encore une fois, on vient de voir que la Chine...
N'était pas tellement touchée par ça.
Pas tellement touchée. Enfin, un des moins...
Plus. Mais si Taïwan est touché, c'est quand même l'endroit où les gens ont beaucoup de positions à cause des semi-conducteurs.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que Encore une fois, l'énergie qui monte, c'est mauvais pour tous les secteurs qui sont gros consommateurs d'énergie. Ben, c'est l'intelligence artificielle.
Hein. L'intelligence artificielle, Bitcoin,
tout ça.
Tout ce qui dépend de l'énergie. Et nous aussi, avec nos miroirs magiques et nos moulins à vent, on n'a pas l'air malin.
On n'a rien, ça ne marchera pas, ça.
Bah, non, bah, on le sait déjà que ça ne marche pas maintenant, alors ça ne va pas marcher.
Et en plus, ils sont en train de faire un truc à 20 ans, un programme à 20 ans sur l'énergie en France, qui est un scandale parce qu'il n'a même pas été présenté au Parlement. Le truc pluriannuel de l'énergie en France, ils ont fait ça par un décret.
Oui, j'ai vu le PPE.
C'est un scandale. Enfin, je veux dire, c'est des trucs... il fait ça, et puis ensuite il donne l'arme nucléaire aux Allemands, et puis voilà, il aura fait son boulot. Quoi. Je ne sais pas pourquoi il a été élu, ce gars-là, mais c'est vraiment c'est inouï quoi, d'avoir un type...
Plus un blocage de toutes les institutions, parce que quand même, il faut rappeler que nommer Amélie de Montchalin, qui va être là pour 40 ans, à la Cour des comptes.
Sauf le prochain président lui dira, cher ami, je compte sur vous pour démissionner parce que.
Oui, ou alors tu essaies de faire naître un scandale ou quelque chose.
Oui,
avec,
tu dois pouvoir trouver, mais même, tu lui dis, vous êtes une très bonne citoyenne et vous avez les intérêts du pays à cœur, il faut mettre des gens nouveaux. Je compte sur vous pour que vous ayez envie de voir un peu plus votre famille, quoi. C'est des choses qui se font dans ce cas-là.
Ouais. Encore que tout se perd, parce que regarde, là, pardon de revenir sur l'affaire Epstein un petit peu, que cette affaire occulte, mais je me dis quand même, le prince Andrew, où étaient les services secrets à l'époque où normalement les accidents d'hélicoptère étaient faits pour ça?
Ben oui.
Je veux dire, les grandes traditions se perdent quand même.
Ben, l'intelligence service n'est plus ce qu'elle était, quoi.
Ben, parce que dans le temps, c'était le genre de choses qui étaient résolues en interne, si je puis dire.
Ben oui. Et là aussi, c'est une des choses qui est embêtante, puisque tu le mentionnes, c'est que tout le monde se rend compte que les élites, entre guillemets, qui nous dirigent, dans la plupart des grandes démocraties représentatives, sont des crapules, sont des assassins,
sont des
voleurs.
Alors, sont des crapules, et par ailleurs, des crapules assez incapables.
Ben oui, elles sont incapables, parce qu'ils obéissent à des ordres qui ne sont pas les leurs.
On pourrait encore se dire, tu vois, on a des gens comme Mitterrand, qui était peut-être une crapule, mais qui, quelque part, en diplomatie, avait un savoir-faire et a réussi des choses horribles, mais il les a réussies, tu vois, tu pourrais te dire. Là, tu te dis, on a en plus...
Et quelque part, il y a un certain respect, parce que là, ce n'est plus du tout le cas. Oui. Donc, tu as tout à fait raison. Donc, on a des gens qui ne sont pas respectables, qui sont incompétents, qui sont malhonnêtes, etc., qui sont en pouvoir un peu partout.
Et qui sont épais, comme des sandwichs SNCF, dans leur capacité humaine, tu sens bien que c'est des êtres qui n'ont pas de profondeur,
qui n'ont pas de capacité. Donc le vrai problème, c'est que nous rentrons dans une crise avec des gens très très incompétents. Et ça, c'est embêtant. Donc voilà, on voulait vous dire tout ça. Donc on est à la fois content parce que on a un petit peu prémunié les gens contre le pet, quoi. C'était un peu notre métier. On est ravis. Mais de l'autre côté, quand je vois la montée aux extrêmes, je ne suis pas certain que ce soit fini. Quoi.
Ah, par ailleurs, je voulais vous dire quelque chose. Dès qu'un conflit naît dans le monde et avec les États-Unis, on a en général des gens qui arrivent tout de suite en pédalant pour nous dire « Oui, d'ailleurs, j'ai lu quelque part la cousine de mon beau-frère de la sœur d'un gendarme m'a expliqué que la Chine allait envahir Taïwan. » Encore une fois, ça n'est pas parce que votre voisin tape son chien que vous allez taper votre chien. La Chine a son propre agenda, son propre ordre du jour, et arrêtez d'écouter des débiles sur Internet qui, sous prétexte que la Chine va envahir Taïwan. La Chine, elle a des trucs à faire. Ça n'est pas du tout à l'ordre du jour. Si ça se passe... ça n'est pas du tout à l'ordre du jour.
Non, mais ça ne les intéresse pas, parce que eux... Ils veulent, en quelque sorte, ils sont arrivés à la conclusion que c'était beaucoup moins cher d'acheter des gens, comme tous les travailleurs dans l'électronique de Taïwan, la moitié des ingénieurs maintenant sont en Chine, parce qu'on leur fait des ponts d'or, que de faire la guerre. Oui. Les Chinois détestent faire la guerre, en 500 ans, ils ne l'ont jamais fait.
Et puis par ailleurs, ils sont, aux dernières nouvelles, ils étaient en train de bien nettoyer les écuries d'Ogias de leur armée. Mis à part Staline, personne ne lance des manœuvres.
Staline, il n'avait rien lancé du tout, il s'était pris des Allemands, il ne s'y attendait pas, oui.
Oui, mais enfin, on ne lance pas des purges et en même temps une action militaire.
Alors pourquoi il a lancé des purges? C'est parce que, ce que je ne savais pas, j'ai appris, c'est ton frère qui m'a appris ça récemment. J'en revenais pas, c'est que quand la guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé, Il a commencé à envoyer des troupes, etc. Et...
L'Allemagne, tu veux dire ?
Non, entre la Russie et l'Ukraine, l'année dernière, Poutine a commencé à envoyer ses troupes, et il s'est rendu compte à ce moment-là...
Ah, là, tu parles de Jinping ?
Je parle de Poutine.
Ah, de Poutine.
Que la quasi-totalité des armes qui étaient faites en Russie à l'époque, c'était des trucs en carton, qu'il y avait une corruption possible, qu'on avait dépensé du pognon mais que rien ne marchait, qu'il n'y avait rien. Donc le problème, c'est que quand il a lancé ses armées, il s'est rendu compte qu'il avait en quelque sorte des tableaux Excel sur lesquels il y avait le nombre de chars, etc., mais ils ne marchaient pas, ils étaient en carton. Donc il fallut d'abord qu'il mène la guerre en rebâtissant son industrie de l'armement en même temps et en mettant des gens en tôle. Il y en a quelques-uns qui ont dû disparaître aussi. Il y a eu pas mal de gens qui ont sauté par les fenêtres, j'ai vu.
Là, il y en a encore un milliardaire russe qui était sur les listes Epstein.
Qui a sauté par la fenêtre, oui, ça arrive.
Qui s'est suicidé d'une corde trop courte.
Et il paraît que quand Xi Jinping a vu ça, il a été voir dans son armée et c'était la même chose.
Ah oui.
Donc, d'où les... Alors, si c'est le cas, et si tu as une armée en carton-pâte, tu ne vas pas envahir Taïwan. Tu attends d'abord d'avoir fait ton armée, ce qui prend une dizaine d'années.
Ce qui me semble. Et puis par ailleurs, on en a déjà parlé ici souvent, mais Taïwan, ça ne s'envahit pas comme ça. Il y a trois plages, en gros, où on peut débarquer. Il faudrait avoir fait des exercices militaires en amont. Faire des exercices militaires en Chine, ça se repérerait quand même.
Et puis en plus, si tu veux, là, sur ces trois plages, il y a un nombre de canons qui sont dirigés, de fusées, etc. Quiconque dépasse là, il se fait massacrer en deux minutes.
Deux minutes, c'est-à-dire les plages de débarquement à côté, c'est peanuts. Donc c'est des endroits épais comme ça, avec des... c'est pas le genre de truc qui se décide. Tiens, on a une opportunité si on faisait ça cette semaine.
On va faire ça ce week-end.
Oui, voilà.
C'est pas du tout le cas. Et en plus, il va y avoir des élections à Taïwan qui vont probablement voter pour que la Taïwan et la Chine continuent à discuter. Donc, ça, il n'y aura pas les indépendantistes vont reculer. Donc, le coup de Taïwan. Et puis, il y a un vieux truc que disait Napoléon, c'est quand votre ennemi est en train de se planter, surtout, vous ne faites rien. Donc, les Américains sont en train de se planter. Ils vont pas aller... maintenant, ils vont pas envahir Taïwan.
Moi, je vais te dire, j'ai un peu peur des... Bon, alors, il est peut-être resté sur sa... Trump, sur sa lancée de Maduro. Mais là, en général, dès que les Américains ont mis un doigt aux Proches ou au Moyen-Orient, ça s'est plutôt mal passé pour eux.
Donc, oui, mais ce qu'ils veulent, ils veulent peut-être pas refaire un changement de régime. Juste que l'Iran devienne complètement ruiné comme la Libye et l'Irak, quoi.
Oui, mais alors, moi, je ne sais pas du tout quels sont les potentiels de résistance de l'Iran. Je ne sais pas ce que, une fois qu'on va lever le capot, une fois que tout le monde a fait all-in, ce qu'on va trouver en dessous, en tout cas, là...
Il y a les trois quarts de l'Iran où il n'y a plus d'eau. Parce qu'ils ont tellement mal géré l'eau qu'il y a des pénuries d'eau partout. Alors, c'est difficile. Enfin, je veux dire, on va voir. Mais le pari, c'est que...
En tout cas, ça va être une guerre de régime à mort, du côté
en
Iran.
En tout cas, ça ne peut se régler que par un coup d'État en Iran, quand elle arrive.
Oui. Ouais.
Et qui sont là, font le nécessaire pour que la paix règne au Moyen-Orient. Mais voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que, comme disait Churchill, hein, la situation est désespérée, mais pas sérieuse.
Elle est un petit peu sérieuse quand même pour nous si cette crise énergétique
s'enlise. Si la crise énergétique arrive en France.
C'est-à-dire déjà, on peut tabler sur un retour de l'inflation, parce que le temps que cette crise s'éponge, on va avoir un retour de l'inflation. La question, c'est est-ce qu'on va en plus avoir une décélération avec une crise inflationniste?
Et ça
va dépendre du temps.
Si les taux restent bas dans une période inflationniste, à ce moment-là, on sait que la monnaie va s'écrouler. Et s'ils montent, la France ne peut pas payer. Donc on arrive à un moment où c'est pile je gagne, pile je perds, et face je perds aussi. C'est ça qui est embêtant en France. Par contre, encore une fois,
et personne
les sociétés françaises
ne semble avoir la vision de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va encore avoir...
On nous fait de la moraline partout, c'est-à-dire c'est mal, les Américains n'auraient pas dû rentrer, ou ils auraient dû rentrer, c'est la faute des Israéliens qui... Bon, tout ça, c'est bien triste, mon pauvre monsieur, mais c'est pas la question, ça.
Ouais, c'est pas ça qui, va faire le plein de la voiture.
Il y a les choses sur lesquelles on peut quelque chose, votre portefeuille. Et le fait que les Israéliens soient très méchants ou pas, ça m'intéresse, mais assez peu, quoi.
Voilà. Bon, écoutez, on a fait ce petit tour pour les investisseurs de leur portefeuille.
On risque d'en reparler. Hein.
Ah, je pense qu'on risque d'en reparler. Ça a quand même été un petit coup ce week-end. Moi, encore une fois, les trucs sur Dubaï et Abu Dhabi, c'était la dernière chose auquel on s'attendait.
Et qui bombarde l'Arabie Saoudite.
Voilà, donc, écoutez, voilà.
On apprend. C'est ce que je dis, hein, ce qu'il y a de merveilleux dans ce métier, j'ai 82 balais, on s'ennuie jamais.
Il faut dire qu'à sa décharge, M. Trump fait énormément d'efforts pour nous tenir éveillés et sur nos doigts de pied.
Hein. Ah oui, tout à fait. Il paraît qu'il dort que 3 heures par nuit, mais...
Oui, et il fonctionne au Coca Light. Et là, il y a une espèce de plaque d'eczéma sur le cou, là, cette semaine.
Bah, ça doit être un peu dur, ce qu'il fait, quand même.
Ouais, je pense que c'est pas
tout. Il n'a pas que des amis, en plus.
Ouais.
Non. Bon, ben voilà.
Voilà, donc on vous dit, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous, on les regarde, et puis on risque de parler de ça relativement jusqu'à ce que cette question soit traitée. Donc
voilà.
Merci beaucoup de nous avoir suivis, et à très bientôt.
À bientôt.